Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Light, présenté par moi-même, encore une fois en solo, hein. On est tout seul face au micro, mais on est content. On est dans un micro qui est... Enfin, dans un micro. Dans une pièce qui est un petit peu différente, parce que là, je suis à Nice actuellement, et peut-être que vous l'entendez au micro parce que il est différent de celui que j'utilise d'habitude. Bref, là, je suis dans une villa avec des potes, c'est plutôt cool. Et c'est pour une occasion assez particulière parce que bah, j'ai un pote qui a dépassé ce mois-ci les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc bravo à lui. Et au-delà de ça et de cette performance, c'est surtout la chance et le fait d'avoir dans son entourage des gens qui réussissent des choses. Mais c'est pas le résultat vraiment qui a de l'importance, c'est plutôt cet état d'esprit qu'on partage. Et j'ai mis du temps à connecter avec des gens comme ça qui avaient ce même état d'esprit parce que ça soit entrepreneur, créateur de contenu, artiste, l'envie de se développer, d'être très ouvert d'esprit, de tout questionner, de faire attention à soi, etc. Bon, bah, c'est pas pléthorique aujourd'hui dans notre environnement, surtout dans notre environnement basique. Donc, bah, c'est normal, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais aujourd'hui, je suis content que ça soit à Montpellier, que ça soit ici à Nice. Je connecte de plus en plus avec des gens qui me. Je dirais pas qu'il me ressemble, mais en tout cas qui m'inspire. Et donc ça, c'est vraiment très cool. Je vous le souhaite aussi, parce que ça change tout et ça rend aussi le processus bien plus cool. Bon, pour la structure de celui-ci, écoutez, je vous propose qu'on fasse la même chose que la semaine dernière. Petite donc présentation rapide. Et je le rappelle, je vais refaire exactement la même chose cette semaine. Si vous faites une story dans laquelle vous m'identifiez, et vous faites un truc qui est cool, en gros la meilleure story, pour vous le dire, cette semaine, il y a 6 ou 7 personnes qui ont fait une story sur Instagram pour parler du podcast. Et donc j'ai fait un call avec, je crois que son nom sur Insta, c'était 99, je sais plus quoi, 99 Head. Donc on a passé 30 minutes jeudi de 14h à 14h30. Et c'était super cool. Donc voilà, si vous voulez avoir peut-être la chance, entre guillemets, d'échanger avec moi 30 minutes, vous le pouvez. Il suffit de repartager l'épisode en story, si évidemment il vous a plu, et de dire un truc qui peut être cool. Je choisirai celle qui me paraît la plus sympa, la plus pertinente. Là, ce qu'il avait fait, c'est qu'il mettait une photo de son réveil à 5h30, et ça m'avait fait marrer. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est le plan de semaine, directement. On va le faire tous ensemble, parce que c'est important, et parce qu'il faut avoir cette itération permanente et non pas cette répétition. La différence est très importante parce que itérer, c'est refaire la même chose, mais différemment. Alors que répéter, c'est ne pas prendre en considération les feedbacks. Et c'est évidemment ça qui nous fait progresser. Et ensuite, on fera les petits objectifs tous ensemble. Ensuite, je partagerai les contenus de la semaine, donc les petites citations, les petites vidéos, informations, etc. Les 5 grandes idées de la semaine, là j'ai du lourd pour vous. Pour commencer, on aura le plus grand problème qui ruine ta vie. Et ouais, je sais, ça s'annonce sympa. Ensuite, en deuxième, les 3 points communs entre 90%, pardon, des gens qui sont a priori successful. La troisième chose, je vous parlerai de la direction et tracé. Non, pardon, c'est pas ça. Je me disais, c'était bizarre comme titre. Comment avoir 3 fois plus de rapports sexuels? Alors oui, je sais, c'est un peu chelou, mais vous inquiétez pas. Ensuite, en 4, on parlera de la différence entre la ruine et le risque. Et en 5, j'aimerais vous parler d'un achat qui a changé ma vie. Voili voilou, le programme s'annonce sympa et on finira par les recommandations de la semaine. Donc un livre, un film, etc. Bref, allons-y. On commence tout de suite par le petit plan de semaine et je vous invite à le faire en même temps que moi. Donc la première chose importante pour cette semaine donc du 8 avril qui va commencer demain pour ma part, parce qu'on est dimanche, c'est d'avoir un petit peu de gratitude pour ce qu'on a accompli. En gros, c'est quoi un petit peu la downlist. Donc pour ma part, je suis content. Si on rappelle un petit peu les objectifs, c'était de suivre le programme de sport, de poster une vidéo, d'avoir de l'introspection et de faire mon week-end à Nice avec mes potes. Bon, en vrai, j'en ai rajouté un peu plus à la fin parce que je trouvais que c'était pas assez et que j'étais un petit peu perdu dans cette vision, notamment suite à ce moment introspectif. Mais bref. Donc cette semaine, je suis hyper content parce qu'en termes de sport, j'ai vraiment été au rendez-vous. J'ai fait 3 séances de muscu. Ça c'est vraiment trop trop cool. J'ai fait mardi matin, mercredi matin et jeudi matin. Donc push-pull legs pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on a fait un petit running 10 km avec mon pote samedi matin. D'ailleurs, c'était un peu dur le réveil parce que j'étais allé au resto avec un pote la veille. Mais bref, et de base, j'avais prévu de faire deux running, mais j'en ai fait qu'un. Et j'ai fait quand même deux grosses balades avec ma mère. Et cet après-midi, on vient de taper un foot pendant une bonne heure. Donc, c'est plutôt pas mal en termes de sport, en termes de mouvement. J'ai aussi fait trois expositions au froid, un truc comme ça. Là, ce matin, je me suis baigné dans la piscine qui était franchement à 10 degrés, hein, pas beaucoup plus. J'ai fait une baignade à la mer lundi avec ma mère qui kiffe. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une baignade aussi à la mer avec mon petit frère. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un shooting photo bah, avec mon petit frère. Ça, c'était sympa. On peut le mettre dans London List. Je suis allé donc week-end à Nice. D'ailleurs, j'y suis encore. On peut l'écrire parce que bah, c'est cool les trucs, disons, professionnels. Mais c'est aussi important, je pense, de noter les trucs qui sont perso et qu'on estime être importants. J'ai posté une vidéo sur YouTube. Ça, je suis assez content, même si, bon, je vous avoue, je vais pas le cacher, le nombre de vues me déçoit un petit peu, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est normal, on va apprendre et on va faire en sorte que la prochaine fois, ça se passe mieux, même si la métrique des vues est importante, mais c'est pas la seule, parce que j'ai eu beaucoup de bons retours. 6 sur 7 en termes de sommeil, ça c'est génial. En ce moment, je porte assez souvent ma Oura Ring, vous savez, qui permet de mesurer un petit peu le sommeil, j'en ai parlé la semaine dernière. Donc ça c'est top. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai fait beaucoup de calls. J'ai plutôt bien travaillé, j'ai vu des gens. J'ai lu un livre, Principles, que j'ai fini. J'ai fait les courses. J'ai fait deux... Ouais, ça je vais le noter aussi parce que je suis assez content. J'ai fait trois jeûnes intermittents. Alors ça, il faut savoir que de base c'est un petit peu difficile pour moi, vraiment j'ai du mal. Mais là, ça s'est fait assez naturellement, c'était cool. Ok, maintenant passons aux améliorations. Comment est-ce qu'on peut accomplir plus vite, faire mieux, etc. Bon, la semaine dernière, j'avais dit que j'aimerais bien passer moins de temps sur Instagram. Et bonne nouvelle, c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc là, si je regarde la moyenne de temps d'écran, cette semaine, écoutez bien, j'ai fait 2h48 d'Instagram. 2h48, sachant que la semaine dernière, on était à 6h. Donc c'est cool, c'est trop bien, ça fait plaisir. Et bah voilà, avoir mis le code avec ma mère, ça m'a bien aidé. Donc ça c'est pas forcément un truc qu'on peut améliorer, mais en tout cas ça a été amélioré. Et ça c'est plaisir. Maintenant il faut continuer, hein. Il faut vraiment continuer. Hop les, on l'écrit. Il faut continuer dans cette direction parce que c'est facile de changer quelque chose. C'est la différence d'ailleurs entre devenir riche et rester riche. Bon, c'est pas si facile que ça de devenir riche, mais ça l'est pas non plus de rester riche. Donc là c'est un petit peu la même chose. Continuer dans cette bonne dynamique. Alors, qu'est-ce que j'aimerais améliorer cette semaine? Franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Cette semaine, j'ai vraiment été très très satisfait de moi et donc ça fait plaisir. Élimination, pareil, j'ai pas grand-chose à ajouter. Alors, programme de sport. Bon, ça, je vais le faire un petit peu de mon côté. Je vais pas trop vous prendre la tête avec ça. Mais je pense que demain, ça va être galère. Ça va être un peu galère, le programme de muscu, mais on mettra ça dans les objectifs, c'est pas grave. Et ensuite, il y a un truc que j'aimerais faire aussi, c'est un programme cette fois de contenu. Chaque semaine, voilà, là on poste la vidéo YouTube longue, là on fait des posts Instagram, là on met les shorts, là on fait une petite citation, etc. J'aimerais bien avoir un petit cadre sur ça. Donc finissons par les objectifs de la semaine prochaine. Alors, il y a un gros objectif pour moi, petit spoiler, mercredi, je vais tourner 24 heures dans la vie d'un combattant pro de MMA. J'ai hyper hâte, ça va être cool. Donc, et ça, c'est vraiment un truc qui est important pour moi parce que ça va sûrement marquer un petit virage à 90 degrés dans ma création de contenu, puisque en fait, j'ai envie de faire des choses un peu plus légères. Je trouve que je suis peut-être un petit peu trop explicite, je me réfère un petit peu trop à des études scientifiques, etc. Et moins, je suis moins dans le vécu, dans l'expérience, et je suis plus dans l'expertise. Je me mets comme une figure d'autorité, et j'ai pas trop envie d'avoir ça. Enfin, j'ai envie de sortir un petit peu de ce rôle, et d'être simplement un explorateur, quelqu'un qui essaye des choses, qui vit des trucs, et ensuite derrière, qui est capable d'en tirer des leçons. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait mon défi SDF tout millionnaire, en fait, c'est pour explorer, c'est pour passer à l'action et c'est bien d'avoir des idées, des concepts, etc. Mais moi, je veux les confronter au réel, en fait. Je veux voir si... Ah, c'est bien de dire qu'il faut être discipliné, mais est-ce que quand je me retrouve bah, là, face à un sparring de MMA et que le gars, il me défonce depuis 2 minutes, est-ce que je suis encore là à tenir ou pas? Bah, c'est ce qu'on va voir, en fait. C'est ce qu'on va voir. Et même si je le suis pas, c'est pas grave, ça peut modifier. Donc, tournage 24 heures MMA. Ça, c'est important pour moi. Ensuite, donc on va mettre 6 séances de sport. 6 séances de sport quand même. En fait, je pense que je vais procéder peut-être différemment et mettre des EKR, donc des objectifs pour la santé, pour le social, pour l'intelligence et pour le business. En gros, je vais diviser. Et bah là, j'ai fait ça pour mon plan de 90 jours. En gros, j'ai dit que je voulais faire sur la semaine, enfin sur le Q2, pardon, 39 séances de muscu, 26 running, 26 jeûnes intermittents, etc., etc. Donc, en gros, c'est la dynamique que j'ai envie de prendre. Cette semaine, j'avais dit que je postais une vidéo YouTube, je respectais mon programme de sport, j'allais à Nice et je faisais introspection, j'ai tout fait. Donc ça, c'est trop cool. Faire les 6 séances de sport, donc 3 muscu, 2 running et un truc un peu plus fun. Ensuite, il y a lire un livre, ça c'est la base, chaque semaine ça revient. Ça c'est d'un point de vue plutôt intelligence. Poster une vidéo YouTube, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Donc ça c'est plutôt, on va dire, business. Podcast light du dimanche, je vous oublie pas les potes. C'est important et pour moi c'est un vrai kiff. Postcat Light, voilà. Bon, je vais pas trop m'éterniser sur ça parce que j'ai envie de vous raconter ma vie, mais pas trop non plus. Et le but c'est que ça soit pas non plus trop redondant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous fixer des objectifs et surtout mettez des choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Par exemple, ce que j'ai mis moi cette semaine, c'était d'éteindre la lumière avant 22h et non pas de m'endormir parce que m'endormir, bah, c'est pas vraiment moi qui décide. Plus ou moins, alors que éteindre la lumière et me mettre dans mon lit dans le noir avant 22h, ça j'en suis largement capable. Pareil, 1h30 de téléphone par jour, bon bah ça c'est dans mon contrôle, ça peut être mesuré, etc. Voilà pour les plans de semaine. Maintenant, pour le contenu de la semaine, bon bah comme je vous l'ai dit, sur YouTube, il y a une vidéo qui est sortie qui s'appelle Pourquoi j'ai arrêté d'écouter de la musique. Franchement, je vous la recommande, elle est plutôt cool, même si j'avoue que c'est pas la vidéo dont je suis le plus fier. Je trouve qu'il y a des fois un petit peu des cafouillages, que je vais dans tous les sens, que. Bon bref, c'est pas grave. C'est comme ça. On va faire mieux pour les prochaines. Et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme contenu? On a fait des petites citations. Bon, sur YouTube, je fais des trucs, les amis. C'est un petit peu n'importe quoi, je vais pas vous mentir. Des fois, je poste des citations. Sincèrement, j'ai envie de les supprimer 2 heures après, notamment parce que je me fais critiquer, mais je me force à pas y toucher. Je veux assumer d'avoir dit un truc de merde. C'est ok, et c'est pas grave, et c'est comme ça que petit à petit, je vais m'améliorer et progresser sur ce processus qui est vraiment important. Donc là, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur TikTok, c'était un test, j'ai voulu voir ce que ça donnait, ça fait 1400 vues. 1400 vues sur un compte qui a 1 million, les gars, les filles. Je vais vous dire que c'est la honte. Vraiment, j'ai du mal à assumer ça, mais je le laisse. Je m'oblige. Donc, ouais, cette semaine, j'ai posté 2, 3 vidéos, un truc comme ça. Ouais, 2 vidéos ou 3 sur les formats courts. Peut-être 4, enfin, je sais pas. C'est pas extraordinaire, mais bon, là, ce qui compte pour moi, c'est vraiment YouTube. Et après, on verra. En tout cas, c'est de retrouver et d'être dans ce momentum où on expérimente. On expérimente et on sort de sa chambre. Comme le dit ma bio, hein, j'aime le chaos, pas le McDo. Donc en gros, j'aime quand ça change, pas quand c'est tout le temps la même chose et quand c'est surtout de mauvaise qualité. Bref, ça c'est pour les contenus de la semaine. On a fait des petites citations aussi. Je me chauffe d'ailleurs même à faire des petits, ce qu'on appelle des dumps. Alors, excusez-moi pour cette notification, c'est pas bien. Mon téléphone est à côté parce que je suis en partage de co. Bref, j'ai fait des petites citations et tout, mais je vais pas m'éterniser sur ça. Bon, il y en a une, elle était un petit peu cringe, où j'ai dit tu n'es pas ton passé mais tu es ton présent. Ton passé n'est pas déterminant mais il reste influent. À présent, la seule chose à faire c'est maintenant. Alors, c'est un peu cringe, mais c'est difficile de dire que c'est faux. Il y a un mec qui l'a dit, ouais, j'ai vu ça sur ma tata, sur le Facebook de ma tata. J'ai aussi dit si tu es fatigué au réveil et en pleine forme avant d'aller au lit, je condamne ton téléphone pour la gêne occasionnée. Et ça, c'est un truc auquel je crois profondément parce que. Eh bien, si on retire les écrans, enfin si on te retire maintenant les écrans, déjà dans ton quotidien, mais surtout le soir avant de te coucher et au réveil, eh bien, je te demande qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas trouver de la stimulation? Parce que bah, il y en a beaucoup moins. Et donc c'est beaucoup plus difficile de ne pas écouter son corps. Parce qu'encore une fois, c'est un problème d'attention. Tu portes l'attention ailleurs que sur toi, et donc tu ne ressens plus cette fatigue, etc. Et ça, pour moi, c'est un problème. Et d'ailleurs, le sommeil, enfin, c'est tellement un pilier important. J'ai du mal à comprendre comment on peut négliger ça et se dire que si ça, c'est pas OK, le reste, ça peut le faire. Non, enfin, c'est impossible. Impossible. Alors, pour les cinq grandes idées de la semaine, commençons avec la première, le plus grand problème qui ruine ta vie. Je vais juste boire un petit peu d'eau avant de vous la partager. Alors, j'ai fait un constat récemment. C'est que, en gros, je regardais, je sais pas si vous avez vu passer, mais je pense que oui, le combat Doumbé versus Baki. Et je crois pas que je l'avais regardé en live, j'avais juste regardé un replay le lendemain. Et bah, j'ai vu ce qui s'était passé, comme quoi ils avaient arrêté le combat à cause d'une épine dans le pied, etc. Bref. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les commentaires et je me suis dit, ah ok, qu'est-ce qu'ils en pensent les autres? C'est quoi leur avis? C'est quoi leur opinion? Et avec lequel je le suis le plus en accord. Et ça, pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème, pourquoi? Parce que, et aujourd'hui, on le fait constamment, hein, sans s'en rendre compte, c'est que on part de l'extérieur, on part de ce que pensent les gens, de ce qu'ils montrent, de ce qu'ils disent, pour ensuite se faire un avis. En gros, c'est pas ok, j'ai vu cette vidéo, qu'est-ce que ça évoque en moi? Qu'est-ce que j'en pense? C'est ok. Qu'est-ce que les autres en pensent? Et maintenant, qu'est-ce que moi j'en pense? Mais c'est l'inverse, en fait. On se trompe de sens. Et on fait ça avec plein de choses. On fonctionne comme ça en permanence parce que, par exemple, je sais pas, je suis sur les réseaux et je me dis, ok, j'ai envie de faire quoi, machin. Bah, je regarde les autres et tu commences à avoir des aspirations, des problèmes, des envies qui ne sont pas du tout les tiennes et qui viennent complètement de l'extérieur, des aspirations qui, au final, ne sont pas en accord avec ce que tu voulais, ou en tout cas, si tu n'y avais pas été exposé, jamais ça serait venu en fait à ton esprit. Donc moi, je prêche beaucoup plus pour le chemin dans le sens inverse, dans le sens où tu vas partir de toi, de ce que tu sais de toi, même si évidemment, toi, tu es que le résultat de cette constante interaction avec l'extérieur, et tu as été influencé par plein de trucs, et que peut-être même si tu pars de ton intérieur et que tu te dis, ah, ok, en fait, moi, je veux devenir médecin et tout, mais que ça a été conditionné par tes parents depuis que tu es tout jeune, mais que tu as l'impression que ça vient de toi, mais en fait, non, c'est quand même cool, et beaucoup plus sain, à mon avis, de partir de cette approche intérieure de, ok. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que j'ai envie de bouger? Est-ce que j'ai envie d'être assis? Qu'est-ce que j'ai envie de lire? Etc. Au lieu de tout de suite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a du mal avec cette sensation. Et par exemple, tu sais pas quoi lire? Bah, tu vas regarder sur YouTube, ok, top 5 des livres recommandés. Et avant de faire ça, il y a quand même la première étape de, ok, moi j'ai envie de lire sur quel sujet? Est-ce qu'il n'y a pas une discussion que j'ai eue avec quelqu'un cette semaine qui peut m'intéresser et qui peut me donner une perspective pour la suite. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus sain, en fait. C'est beaucoup plus sain, cette approche, et il y a moins de chances de se tromper. Parce que si ça part de toi et de seulement toi, bah c'est pas, au contraire, à l'extérieur, toutes les options multiples qu'on te propose. Donc ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'essaye de travailler. Au lieu de me dire, ah, j'ai envie de faire ça parce que ça, je repars sur mes sentiments, mes émotions, mes perceptions, mes connaissances, etc. Même si évidemment c'est une interrelation. Ce qu'il y a en toi, bah, c'est le fruit de tout ce que tu as vécu, entre autres, même si tu as aussi des choses en toi, à mon avis, qui existent depuis toujours, c'est évident. Mais il y a aussi bah, l'intérieur qui vient se refléter, enfin se matérialiser dans l'extérieur, etc. Bon, je sais pas si c'est hyper clair comme idée, mais en gros, arrêtez de regarder tout le temps par la fenêtre, c'est quoi la. Non! J'aime bien l'idée, c'est en gros, arrête de regarder sur ton téléphone c'est quoi la météo, genre ouvre ta fenêtre et regarde dehors. C'est ça, tu vois. Et en gros, bah, quand tu ouvres ta fenêtre dehors, c'est quand tu ouvres toi. Même si c'est compliqué de faire ça, mais tu comprends l'idée. Ok, bon, ça c'est la première petite idée qui est importante et où ça m'a vraiment le plus trigger, c'est sur les commentaires. Je me dis, mais c'est fou en fait, on passe notre temps, et notamment sur les réseaux et sur TikTok, Insta et tout, à regarder ce que les autres pensent pour ensuite être dans la réaction. On cultive beaucoup plus la réaction que la réflexion. Donc soyez un peu plus dans la réflexion avant d'être dans la réaction. Et avant d'être dans l'action aussi, peut-être avoir ce côté réflexion, il est cool. Ok, deuxième chose, laissez-moi vous partager les trois points communs que j'ai identifiés entre 90% décidément des gens qui ont eu du succès dans leur vie. Alors ça peut être du succès, je l'entends de plein de manières différentes, financier. Dans le sport, dans l'art, dans l'aventure, enfin bref, on peut avoir du succès dans plein de domaines sans que ça soit un marqueur de la société qui soit mis en avant. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé à plein Plein de routines, plein de gens qui ont fait des trucs de ouf, et j'ai essayé de déceler quels étaient les points communs et les patterns qui se répétaient. Le premier que j'ai trouvé, c'est que tous ces gens-là, en tout cas quasiment, ils avaient une forte stimulation de leur corps et de leur esprit. On sait que bah, depuis Descartes, enfin, au contraire, Descartes a dit qu'il existait une dissociation entre le corps et l'esprit, mais on sait depuis longtemps que ce n'est pas du tout le cas et que les deux sont indissociables et complètement liés. Il y a une énorme interdépendance et à mon avis, dans les années à venir, on se rendra compte que c'est bien plus que ce qu'on pense. Il y a Richard Branson, donc, qui est le gars qui a fondé Virgin et qui est un des hommes les plus riches du monde, qui disait dans une interview que son meilleur hack de productivité, c'était work out. Donc, c'est-à-dire de faire du sport. Et en fait, plus je discute avec des gens, plus je regarde, je lis des biographies, etc., et plus je me rends compte qu'il y a toujours cette envie d'être dans un processus actif. Il y a une curiosité énorme, que ça soit intellectuel, que ça soit dans l'envie de bouger, de faire des sports, etc. Et bah, tout le monde, en fait, a besoin, c'est des gens qui ont besoin de beaucoup de stimulation, en fait. Les gens qui arrivent à réussir des trucs, c'est les gens qui cherchent et qui se mettent dans le mouvement. Mais ça peut être dans le mouvement, donc faire du sport comme on l'entend, mais simplement se mettre dans le mouvement, dans le sens se mettre en action, commencer à faire des choses et entreprendre des choses. Donc ça, pour moi, c'est le premier point commun qu'il y a entre tous les gens qui réussissent, c'est bah, évidemment, ils font du sport. Évidemment, ils sont à peu près en bonne santé parce que bon, bah, faut que le cerveau il carbure bien. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi c'est un sport de haut niveau en fait. Il faut que tu optimises, t'essayes d'exceller dans plein de domaines de ta vie pour que ensuite tu aies les meilleures idées possibles, que tu sois le plus compétent, etc. Et quand tu es en train, par exemple, de monter une boîte, eh bien, souvent, le niveau de ton entreprise est à ton niveau, toi en premier lieu. Et c'est ce que Théo Lyon, il appelle l'entrepreneur. En gros, c'est la personne qui se scale soi-même, qui vraiment est capable de se développer, d'incarner et d'avoir une forte exigence envers soi qui va inspirer et instaurer ça dans la culture de l'entreprise et dans ce que font les gens autour de toi. Moi, je le vois comme je suis chez ma mère là actuellement, où étant donné que je suis assez exigeant envers moi-même, je suis aussi un peu plus exigeant, enfin, j'essaye, je fais attention, mais je suis un peu exigeant envers les autres aussi. Et donc, bah, ça se répercute en fait. Et je le vois, ma mère, elle est à fond. Mon petit frère, dès qu'il rentre le soir, il joue aux jeux vidéo, il veut pas me croiser parce que bah, il sait que je vais lui dire attention, etc. Même si je ne veux pas être trop dans le jugement, etc. Mais bref, il y a ce truc où quand tu incarnes, quand tu as ce haut niveau envers toi-même, ça se répercute sur les autres. Ok, deuxième chose que j'ai remarqué. Le deuxième grand point commun, c'est l'art de travailler avec les bonnes personnes. Ça, c'est un truc dont on parle assez peu, je trouve, mais c'est tellement, tellement important d'être capable de recruter des gens compétents, de vivre avec des gens compétents, mais pas dans le sens premier du terme, une compétence pure, parce que ce qui importe, c'est pas forcément what, mais c'est who. En gros, c'est pas qu'est-ce que tu sais faire exactement, mais c'est quels sont les principes derrière enfin, sur quoi est-ce que ça repose, quel est ton état d'esprit, la manière dont tu appréhendes les choses, la manière dont tu réagis avec, etc. Dans le livre que je vous avais recommandé la semaine dernière, Principles, que j'ai lu, parce que bon, bah, c'est bien de recommander des livres, mais il faut les lire aussi, eh bien, Ray Dalio, il parle de ça et il partage notamment une citation de Steve Jobs qui a dit un jour: The secret to my success is that we've gone to exceptional length to hire the best people in the world. En gros, traduction. Le secret de mon succès, c'est que on a réussi à recruter des gens qui sont les meilleurs dans leur domaine, dans le monde. Tout simplement. Et bah, c'est pas moi qui dis ça, quoi. C'est Steve Jobs, le mec qui a fondé une des entreprises les plus riches du monde, si ce n'est peut-être la plus riche, je sais pas, Apple. Combien en termes de capitalisation ils sont hauts, mais bref. C'est vraiment cette capacité à recruter des gens qui sont forts, qui fonctionnent assez bien en harmonie aussi, c'est trop, trop, trop important. J'ai vu un truc intéressant sur le livre Who, donc qui est comment est-ce que tu fais pour recruter des gens, etc., qui disait un truc intéressant sur l'intuition. En gros, le postulat, il est que l'intuition, c'est quelque chose d'excellent pour savoir qui ne pas recruter, mais par contre, c'est l'inverse pour savoir comment recruter exactement la bonne personne. Là, il faut pas spécialement écouter son intuition parce que elle va avoir tendance à aller vers des choses qui nous sont familières, qu'on connaît, qui nous rassurent, sympathie, etc. Et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc quand on recrute ou qu'on veut, et même si vous n'êtes pas dans cette situation où vous avez besoin de recruter des gens, etc. vous travaillez avec des gens, en fait. Enfin, c'est quasiment obligatoire. Ou même à l'école, quand tu fais un travail de groupe, la capacité à choisir dans ton groupe les personnes qui ont le plus de complémentarité, etc., bah, c'est ce qui va faire que tu vas réussir. Et typiquement, moi, je me souviens très bien au lycée, on avait fait, je crois que c'était TPE, un truc comme ça, une épreuve. Bah, qu'est-ce que j'ai fait naturellement? J'ai suivi mon intuition qui m'a dit d'aller avec mes potes et au final, bah, on a une note éclatée. Parce que bah, on a travaillé comme des merdes, ça s'est pas bien passé, etc. Et donc, bah, ça, je l'ai compris. Et après, quand je suis passé en terminale, parce que je crois que c'était en première TPE, eh bien, à chaque fois, je me mettais dans des groupes qui étaient différents, où je sentais qu'il y avait une harmonie qui était un peu, qui était meilleure. Et donc, ça marchait mieux. Et en plus de ça, je suis allé au resto cette semaine avec mon pote Gabriel. Et lui, il est à la tête de Hermione Médecine. En gros, c'est une prépa pour ceux qui veulent faire PACES, donc médecine, et qui accompagne, etc. Et en gros, bah, lui, il recrute des gens. Et il m'a dit qu'une fois, il a recruté quelqu'un de pas compétent. Et qu'au final, au-delà de les emmerdes que ça peut te créer, etc., c'est terrible, en fait. C'est terrible parce que ça te fait perdre un temps fou, ça te fait perdre beaucoup d'argent. Et même toi, ça a un impact qui est énorme sur toi. Donc, recruter et savoir travailler avec des gens et choisir les bonnes personnes, c'est hyper, hyper important. Personnellement, moi, je commence à travailler avec des gens. Là, en ce moment, j'ai deux monteurs, un graphiste, et bon, je travaille aussi de temps en temps avec un caméraman, etc. Bref. Et bah, le fait de travailler avec mon monteur actuel qui s'occupe des vidéos YouTube, qui s'appelle Marc, à qui je fais un bisou, eh bien, ça a été une excellente recrue pour moi et un excellent move d'avoir commencé à faire des vidéos avec lui. Parce que si aujourd'hui mes vidéos YouTube, en tout cas celles que j'ai faites ces derniers temps, ont aussi bien marché, c'est en partie grâce à lui. Parce que son montage est excellent, parce que je sais que en m'exprimant de cette manière-là, etc., il va pouvoir l'illustrer ainsi. Enfin bref. Ça marche super bien et le fait d'avoir trouvé ce gars et d'avoir eu l'intuition et en même temps le bon process de recrutement, etc., ça m'a permis de me faciliter grandement le processus de création sur YouTube. Et donc trouver Marc, ça a été un accélérateur, pardon, pour moi sur YouTube. Et sans lui, bah, il y a de fortes chances que j'aurais peut-être moins, j'aurais 20 000 abonnés de moins, 30 000, je sais pas. Mais c'est sûr que ça m'a énormément aidé. Et donc bah en fait, au bout d'un moment. Quand tu montes dans ce game et dans ce jeu qui est de mettre les bonnes personnes en synergie, toi, tu as juste à manager, à leur permettre de s'exprimer pleinement. Et bah, c'est là où ça fait des magies, en fait. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Bref, le dernier, pardon, point commun, c'est que entre ces gens tout successful, la direction est tracée. Ils savent dans quelle direction ils vont. Ils n'ont pas forcément d'objectifs précis, clairs, qu'ils veulent atteindre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une direction. Je trouve personnellement que ne pas avoir d'objectifs, c'est quand même le meilleur moyen d'être perdu dans sa vie. Et par moment, pour accomplir des choses, c'est important à minima d'avoir un plan. Il faut avoir un plan, il faut savoir où aller, et si tu n'as pas d'objectif, bah, tu finiras par passer tout ton temps et toute ta vie à travailler pour ceux de quelqu'un d'autre. Tu vas travailler pour les objectifs de quelqu'un d'autre et essayer de les accomplir. Donc ça, pour moi, c'est pas forcément souhaitable et il faut à minima avoir une vision, savoir dans quelle direction est-ce que tu vas pour pouvoir commencer à mettre en place des actions et des choses concrètes. J'ai bien aimé ce qu'il a dit mon pote Lucien là, avec qui bah, qu'a loué la maison. C'est un processus VOA, je crois. En gros, il y a vision, objectif et action. Et vous pouvez le voir comme une pyramide où tout en bas, on a donc la vision, la chose la plus importante, qui va faire émaner et faire naître des objectifs. Donc là, on est un petit peu plus relié au présent, avec des choses sur lesquelles on peut se projeter. Et ensuite, de ces objectifs vont découler des actions. Mais ce qui est cool, c'est que tu as un processus où tu vas mettre en place des actions qui vont donner du feedback et qui vont te permettre de pouvoir peut-être au fur et à mesure modifier l'objectif. Et ensuite, avec cet objectif, tu vas peut-être pouvoir au fur et à mesure modifier la vision. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas tu as une vision, machin, et au final, tu changes les objectifs et une action fait changer complètement la vision. Non. Il faut avoir ces étapes et il faut en tout cas avoir quelque chose sur lequel tu peux te projeter. Parce que d'un point de vue un petit peu évolutionniste, on a en nous ce besoin, Je trouve que je parle un peu vite là, je vais essayer de me calmer. On a ce besoin et ce désir d'aller vers, d'aller chercher toujours plus, de chercher des choses. Et en fait, on est obligé. On est obligé parce que, imaginez qu'il y a 500, 1000 ans, tu te retrouves dans ta grotte et tu es full gratitude, full dans l'amour et que tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Eh bien, au bout d'une semaine, tu vas mourir de faim, mec. Tu vas vraiment mourir de faim et tu vas voir. Bah que c'est bien beau d'être content, de pouvoir respirer, d'être avec des gens que t'aimes, etc. Mais c'est pas suffisant. Donc c'est normal qu'en nous, on ait de manière assez profonde cette envie à chaque fois d'aller chercher des choses à l'extérieur. Et donc on est obligé de vivre avec des objectifs. Et d'un point de vue physiologique, on le voit. Là, le chemin dopamine, adrénaline, tout ça, il prend beaucoup plus de place au quotidien que ce qu'on pourrait qualifier de. Enfin, qualifié, non, mais s'il correspond plutôt à la sérotonine, à ce genre de je suis dans l'instant présent, je me sens bien, etc. Ça, c'est important de le cultiver. Et aujourd'hui, on le perd et on est de moins en moins dans la satisfaction et dans la gratitude de ce qu'on a déjà. Mais d'un point de vue purement évolutionniste et biologique, on a en nous, ancré très profondément, quand même, cette envie d'avoir des objectifs, cette envie d'aller chercher des choses en dehors de nous. Et donc, ça, je pense que c'est normal, il faut pas le combattre. J'aime bien ce qu'il dit Naval sur les objectifs, et il dit que pensez système et pas objectif. Parce que, et en gros, ce qui continue sur ça, c'est utiliser votre capacité de jugement pour déterminer dans quel environnement vous voulez prospérer. Et ensuite, créez-en un qui vous permettra d'avoir statistiquement, pardon, de grandes chances de réussite. Votre cerveau est programmé par votre environnement actuel, mais un cerveau intelligent est capable de choisir son environnement futur. Et ça, pour moi, c'est un des plus grands glitches qu'on peut avoir, c'est cette capacité à se mettre dans les bons environnements pour faire en sorte que ça soit facile par la suite de faire les actions qui nous permettent d'accomplir notre vision, ou en tout cas de s'en rapprocher. Parce que l'objectif, c'est pas spécialement d'accomplir la vision, mais c'est d'aller dans cette direction. Et c'est ça le plus satisfaisant en vrai dans la vie. C'est d'aller vers la vision, quoi. Bref, on passe à la troisième idée. Alors, elle sera un petit peu plus rapide. Et un petit peu putaclic d'ailleurs, c'est comment avoir 3 fois plus de rapports sexuels. Alors ça, c'est un truc marrant que j'ai découvert dans une newsletter de Rob Anderson sur Substack. J'aime beaucoup consommer des trucs sur Substack parce que je trouve que c'est quand même assez quali, souvent très intéressant, et c'est aussi très très philosophique, etc. Enfin bref, il y a vraiment des. C'est pas comme un réseau social un peu classique où il y a beaucoup de bruit et assez peu de signal. Là, je trouve que sur Substack, il y a un ratio signal-bruit qui est vraiment excellent. Je bois un petit peu d'eau et on y va. Alors, l'étude a été menée en 2016. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est que on a fait un test d'altruisme à des hommes et des femmes. Où en gros on s'est amusé à mesurer leur niveau de. Enfin, comment est-ce que eux, ils trouvaient qu'ils étaient altruistes par rapport à eux-mêmes, donc un truc vraiment purement subjectif. Et ensuite, on avait aussi des tests où on leur donnait de l'argent dans un jeu pour voir à quel point est-ce qu'ils distribuaient et partageaient avec les autres, etc. Et ensuite, on a fait ça sur un grand nombre d'échantillons, et on a vu quel était le nombre de rapports sexuels, enfin pas de rapports, mais de partenaires, c'est pas la même chose. Sexuels qu'ils avaient eu dans leur vie. Et on s'est rendu compte d'un truc intéressant, c'est que, en moyenne, mais ça vaut que pour les hommes, les mecs qui avaient un taux d'altruisme assez bas, donc en gros ils avaient 1 sur 5, quoi, tu vois, pas très altruistes, ils avaient en moyenne 4 partenaires sexuels dans leur vie, ils en avaient eu 4, alors que ceux qui avaient 5 sur 5 sur l'échelle de l'altruisme, ils en avaient eu 12. Et ce qui est fou, c'est que ça marche que avec les hommes. Avec les femmes, il n'y a pas du tout ce phénomène, et le fait d'être altruiste ou pas, ça change absolument rien. Et ils finissent l'étude, enfin en tout cas il finit dans sa newsletter en disant que ces recherches, elles sont assez cohérentes avec ce qu'on a vu par le passé sur les chasseurs-cueilleurs. Où on s'est rendu compte que bah, les hommes qui chassaient et qui partageaient leur nourriture, c'était ceux qui avaient le plus de partenaires sexuels et qui avaient le plus d'enfants. Ça revient à cette notion que les féministes n'aimeront peut-être pas, mais cette notion que l'homme a besoin et d'un point de vue évolutionniste a toujours été quelqu'un qu'on pourrait qualifier de provider. Qui avait tendance à amener les ressources et donc à aussi les partager. Donc voilà, ça je trouvais que c'était intéressant et ça me faisait penser, enfin j'en ai fait un short sur le sujet je sais pas si vous avez vu le film Five avec Pierre Niney et comment il s'appelle l'autre gars là? Ah je sais plus. Bref, François Civil, j'aime bien ces acteurs, ils sont cool. Et à un moment, donc dans Five, il y a un mec qui a un petit gros et il donne son hamburger à la meuf. Et on comprend mieux donc pourquoi bah, c'est lui qui a réussi à la choper, quoi. Bref, c'est assez intéressant et j'aime bien ce genre d'études qui apportent, enfin, qui mettent en lumière des choses qui peuvent paraître assez instinctives, parce que ça semble logique que bah, plus les gens sont dans le partage et plus ils ont de chances de recevoir. Parce que moi, je crois beaucoup quand même à cette. Je sais pas si on pourrait parler de loi de l'attraction, pardon, ou je sais pas, mais même cette idée que bah, si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que tu impactes beaucoup de personnes, ou en tout cas que tu apportes beaucoup de valeur. Et donc j'ai l'impression que dans la vie, c'est un peu la même chose. Plus tu es capable d'être dans le partage, dans l'abondance, et plus ça va te revenir d'une certaine manière. Voilà. Alors, quatrième idée. Celle-là, elle nous vient de notre ami Taleb, hein. Évidemment, évidemment, évidemment. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu ses livres, franchement, ne mettez pas en pause ce podcast, parce qu'il est tout aussi intéressant, mais à la fin de ce podcast, allez lire un livre de Taleb. Parce que vraiment, c'est un peu technique à certains moments, mais c'est tellement intéressant. Je trouve ça vraiment, c'est ouf. Et je pense que je pourrais juste garder 5 livres, j'en garderai 2-3 de lui. Enfin, peut-être pas, j'en garderai un, quoi, c'est sûr. Donc, idée de Taleb partagée dans Skin in the Game, jouer sa peau en français, qui est la différence entre la ruine et le risque. Et comme quoi, il ne faut pas confondre les deux. Parce que c'est très important, à mon avis. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut aimer le risque, mais tout en nourrissant une profonde aversion pour la ruine. Si vous voulez, le risque et la ruine, ce n'est pas du tout la même chose, parce que les bénéfices de la ruine ne compensent jamais les risques de celle-ci. Je trouve que c'est un point de vue très intéressant et qui remet notamment en perspective notre manière de percevoir le risque. Très souvent, quand on prend des risques dans notre quotidien, c'est pas des risques qui vont nous mettre en danger physique, donc il y a assez peu de risques de ruine, dans le sens où on pourrait pas avoir des effets irréversibles. C'est ça en fait la définition de ruine, c'est que en gros, il y a un décalage de reward qui est complètement disproportionné, où on risque énormément, on s'expose à quelque chose de peut-être irréversible, que ce soit une difficulté physique, etc., pour une récompense qui au final n'en vaut peut-être pas, enfin pas tant que ça. Par exemple, bah, sauter d'une falaise, c'est ruine en fait. C'est un risque qui est associé à une très forte chance qu'il se passe de la merde et une reward qui est un peu éclatée, quoi. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais par contre, et c'est là où dans notre environnement c'est très intéressant, on se rend compte que la plupart du temps, quand on parle de prendre un risque, on s'expose énormément à la récompense. Il y a un max de reward, un ROI, un retour dans l'investissement, ce qui est hyper important, et complètement disproportionné par rapport au potentiel de ruine. Il n'y en a aucun quasiment. Aujourd'hui, tous les risques qu'on peut prendre dans notre quotidien, que ça soit décider de quitter notre job parce que ça nous fait chier, d'arrêter nos études, enfin, faites pas forcément ça, vous faites ce que vous voulez, mais de lancer une vidéo sur Internet, de dire que je vais aller aborder cette fille dans la rue, enfin bref, tous ces trucs qu'on pourrait considérer comme risqués, ben, en résultat, le niveau de ruine associé, il est de zéro, quoi. Genre, au pire, imagine demain, tu te retrouves dans la rue avec 0 € et que tu es plutôt en bonne santé, etc. Mais bon, évidemment, mon expérience SDF tout millionnaire m'a conditionné à cette réponse, mais je m'en suis rendu compte en tout cas. Mais c'est pas être ruiné, ça. Enfin, c'est pas. T'es pas à un niveau de ruine. T'as encore ton intégrité physique, mentalement, tu vas bien, et que, je sais pas, t'as pas perdu tes proches, etc. Mais tout va bien, tout va bien. Et finalement, ce risque de se retrouver à zéro. Et eh bah, tu te rends compte que c'est un risque qui vaut le coup d'être pris. Parce que bah, le reward, il est quand même cool et qu'il n'y a pas de, y a pas trop de downside au final. Donc, je trouve que, en fait, quand on pense à cette idée, on a envie de prendre des risques de ouf. Par contre, maintenant, un truc intéressant aussi qui partage Taleb, c'est qu'il ne faut pas oublier que chaque risque que l'on prend s'ajoute aux autres et contribue à diminuer notre espérance de gain. Et notre espérance, par exemple, de vie. Donc, tu peux prendre un risque, pardon, dans un domaine, mais si tu prends un autre risque dans un autre domaine, eh ben, les deux s'accumulent. Et donc, t'as ça qui rentre en jeu. Et je crois que dans Skin in the Game, il prenait l'exemple, c'était quoi de. Ah ouais, la différence entre 100 personnes qui jouent au casino versus une personne qui joue 100 fois. Ce qui n'est pas du tout la même chose, parce que bah, s'il y a 100 personnes qui jouent une fois, en gros, tu vas plus avoir. En gros, c'est. Attends, pardon. Je retrouve l'idée parce que c'est pas hyper clair dans ma tête. C'est ce qu'on appelle le. Ouais, c'est pas confondre probabilité d'ensemble et probabilité ponctuelle du temps. Le point d'oncle, c'est le 28e jour, 28e jour où la personne n'a plus d'argent et ne peut pas retourner au casino. Et ouais, parce que s'il y a une personne qui joue 100 fois, au bout d'un moment, elle va toucher ce qu'on appelle le point d'oncle. D'oncle, pardon. En gros, elle a plus de thunes. Donc, elle peut plus jouer. Alors que bah, s'il y a 100 personnes qui jouent une fois au casino, bah, ils peuvent tout le temps jouer, en fait. Enfin, ils peuvent faire une fois. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il y a aussi ce risque qui s'associe à chaque fois et qui s'additionne. Tu prends un risque le samedi, tu as fait ton premier jour au casino, le dimanche, tu y retournes. Bah, c'est reparti par rapport à ce que tu as fait la veille. La somme est en étroite relation. Donc voilà. Assez intéressante comme idée. Dernière idée de la semaine, qui est. J'aimerais vous parler d'un achat qui a pas mal changé ma vie, ou en tout cas enfin, que je trouve cool. Et d'ailleurs, là, cette semaine, j'ai tourné une vidéo qui s'appelle 9 objets pas chers qui ont vraiment amélioré ma vie. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de trucs, sûrement, que vous connaissez pas. Et donc là, je vous livre un des achats que je partage dans la vidéo, qui est YouTube Premium. En fait, c'est simple. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK. Bon, de base, moi, je j'aime pas du tout payer pour des trucs. Enfin, depuis que je suis tout petit, j'essaye de gratter partout le plus possible. Par exemple, j'avais hacké des comptes Spotify. Je sais pas, j'avais chopé les Netflix de mes potes. Quand il y avait des soirées, c'était moi qui ramenais les diluants, les autres qui ramenaient l'alcool. Enfin bref, je grattais des clopes un peu partout quand je fumais. Bref, j'ai toujours été un peu dans cette optique d'économie, même peut-être de radinerie des fois. Et aujourd'hui, c'est quelque chose. Alors évidemment, l'argent le permet, hein, c'est sûr, qui m'a permis d'en sortir. Et des fois, je me rends compte que c'est vraiment cool. Donc par exemple, YouTube Premium, calcul simple, je regarde, on va dire, une vidéo d'une heure par jour. Enfin, en gros, je passe une heure par jour sur YouTube. Je pense que c'est peut-être un peu moins, mais on va dire une heure par jour. Et sur une heure de contenu, il y a YouTube normal, allez, 2-3 minutes de pub. 2-3 minutes de pub, ça fait en gros sur le mois, si je regarde une heure, à peu près entre une heure et une heure et demie de pub par mois. Maintenant, une heure et demie de pub par mois, bah pour moi, ça vaut beaucoup plus que 12,90. Parce que c'est ça le prix de l'abonnement et mon taux horaire, une heure de travail pour moi, bah c'est plus que 12 balles. Donc bah c'est ok de payer. Et en plus de ça, je crois beaucoup en la puissance de l'inconscient et de son impact sur nous et sur ce qui se passe avec les pubs. Parce que en fait, se passer de publicité, c'est peut-être, enfin, c'est impossible de se passer de publicité. Et d'ailleurs, j'ai vu une stat comme quoi on envoyait 1200 par jour. Un truc comme ça, enfin, c'est un truc de fou. Après, évidemment, c'est genre, ah bah là, je suis assis à mon bureau, j'ai mon Mac, donc je vois Apple, là j'ai une bouteille, c'est écrit Evian, là je vois encore mon iPhone, il y a Apple, là le micro c'est Rode, enfin bref, on voit des marques partout, évidemment. Mais c'est pas pareil que regarder une pub vidéo de 30 secondes, etc. Donc, ce passer de publicité, pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens de reprogrammer un petit peu son cerveau et de procéder par soustraction. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'envies, de pulsions qui sont en toi et qui émanent et qui ont été créées un petit peu de toutes pièces parce que tu as vu sur les réseaux sociaux et peut-être parce que tu as vu, bah en fait, tu le sais pas. Et bah ça, ils ont enfin, un peu de mal à le mesurer, les marques, mais ils savent que ça marche. Je sais pas, tu es allé au ciné, tu as vu le Hippopotamus, tu viens de finir le film, c'était trop cool, tu as envie d'aller au resto, tu vois soit l'Hippopotamus, soit juste à côté le Buffalo Grill. Bon, bah, comme tu as vu le Hippopotamus juste avant la séance, tu te dis, bon, vas-y, je vais au Hippopotamus. Et donc là, bon, en l'occurrence, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais c'est sûr que ça en a. Et si les gens continuent à le faire et à payer autant, c'est qu'il y en a. Donc bref, je pense que c'est vraiment un truc cool d'avoir cette soustraction de publicité à laquelle on est exposé au quotidien. Parce que ça vient un petit peu corrompre ce truc dont je parlais en premier lieu, la première idée qui était ce truc intérieur, en fait. Le but, c'est de retrouver quelque chose d'un peu plus neutre, d'un peu plus fluide. Et c'est comme une eau, en fait, si vous voulez, où on y met plein, plein, plein de choses et on la pollue, on la pollue, on la pollue. Bah là, on essaye d'enlever de plus en plus de choses qui viennent polluer notre manière de raisonner, de réfléchir, etc. Et je pense que la publicité, en tout cas beaucoup d'entre elles, nous pollue plus qu'autre chose. Donc, en voir moins, c'est cool. En voir moins, c'est cool. Et j'aime bien la petite citation de mon ami Elliot Meunier qui a dit un jour que la consommation involontaire de publicité équivaut à un impôt prélevé sur l'attention. Et oui, les amis, et oui, c'est un impôt et votre attention, c'est quelque chose de très précieux. Peut-être même de la chose la plus précieuse que vous avez, donc faites-y attention. Vraiment, faites-y attention et contrôlez peut-être un peu plus les inputs qui arrivent dans votre cerveau. En l'occurrence, ce podcast est un excellent input. Vous auriez pu pas faire mieux, en fait, je pense. Mais écoutez la radio le matin dans votre voiture, peut-être que c'est pas le meilleur input. Ça dépend, encore une fois, de votre vision et de ce que vous voulez faire. Voilà. Voilà pour les 5 petites idées de la semaine. Je trouve que c'est pas mal. Maintenant, j'aimerais vous partager les 5 recommandations de la semaine. Les 5 recommandations de la semaine. Alors, la première, c'est un livre qui est Notre existence a-t-elle un sens de Jean Stone? Alors, pour être très honnête, ça, c'est un livre que j'ai commencé il y a 3 semaines, un truc comme ça. Et je me suis arrêté à la page 90. Parce que vraiment, c'est lourd. C'est un peu lourd comme bouquin, mais c'est une dinguerie. J'ai trop hâte d'être capable de lire ça et de m'y remettre parce que les implications et les connaissances partagées dans ce bouquin sont énormes. Vraiment, c'est énorme. Et en fait, enfin, si vous voulez, ça parle de enquête philosophique et scientifique du monde actuel dans lequel on vit et de ses implications sur le sens. C'est trop intéressant. C'est donc Jean Stone, c'est un mec, c'est une pointure dans le domaine qui a fait des enfin, chercheurs, machin, CNRS et tout, je crois. Bref, c'est du gros calibre et ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Notre existence a-t-elle un sens? Pour ceux notamment qui s'intéressent à la physique quantique, ce genre de choses, vous avez de très belles choses dans ce bouquin. Maintenant, le film de la semaine, alors, c'est Captain Fantastic. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais si vous l'avez pas vu, ne mettez pas en pause ce podcast. Mais à la fin de ce podcast, allez le voir parce qu'il est trop trop cool. Et moi j'aime bien la vision et ce que ça amène comme réflexion sur notre manière de vivre aujourd'hui. Voilà pour le film. Alors la musique, je l'ai pas encore choisie, mais j'ai du mal à partager une musique parce que le titre de ma dernière vidéo YouTube s'appelle Pourquoi j'ai arrêté d'écouter de la musique. Donc ça le fait pas trop. Mais c'est pas grave. Alors, Spacer. Voilà, Spacer de Mowgli, Noémie et Agoria. Je kiffe trop ce son, je vous mets un petit extrait si vous voulez. En gros, c'est une musique un peu électro comme ça. Et ça fait. Voilà, j'écoute de plus en plus de musique comme ça. Et après, il y a des petites paroles. La, na, na. Voilà, ça c'est Spacer, donc Spacer, de Mowgli, Noémie et Agoria. Petit son sympa qui m'a été partagé par un de mes potes au cowork qui est DJ, qui organise des événements. D'ailleurs, je devais aller à la Sunday là aujourd'hui, dimanche, mais bah, comme je suis à Nice, je malheureusement n'ai pas pu. Bon, c'est comme ça. Alors, la marque qu'on recommande cette semaine, c'est Sweet Supply. Sweet Supply, pour ceux qui veulent aller se choper un costume de ouf, de qualité, il n'y a qu'un seul magasin à Paris, sinon ce sera en live, sur internet. Allez-y, les yeux fermés, c'est une dinguerie, c'est trop stylé, c'est quali et le rapport qualité-prix est excellent. Pour des bons costumes, hein, je vous parle. Donc voilà, les mecs, si vous voulez vous faire plaisir, je crois pas qu'ils vendent de trucs pour les filles, désolé. Voili voilou. Après, l'aliment de la semaine, je sais pas si je vais garder ce truc parce que c'est un peu chelou, mais bref, c'est le foie de morue. Le foie de morue, excellent. Manger du foie, les amis, c'est. Enfin, c'est tellement nutritif ce genre de truc, c'est important. Alors, le foie de morue, en l'occurrence, c'est pas le foie le plus nutritif. Plus intéressant de manger du foie de bœuf, la langue de bœuf, la cervelle, du foie de volaille, enfin bref. Mais le foie de morue aussi, c'est cool. Et maintenant, j'ai ajouté la citation de la semaine que j'ai lue dans Principles. Et c'est ouf parce que, en fait, c'est arrivé pile au moment dans ma life où. Elle devait arriver cette citation. En gros, j'étais. Ça, je sais pas c'était quand, mais genre jeudi ou vendredi, un truc comme ça. Je me suis réveillé en pleine nuit, pardon, et j'ai fait un rêve de ouf. Enfin bref, il s'est passé des trucs chelous, j'ai pas trop envie d'en parler, mais bref. Je me lève, je sors mon tel, je vais dans mes notes et j'écris prise de conscience, 2 points. Et là, je déballe genre 5-10 lignes. En gros, je prends conscience de plein de trucs sur WAM. Et souvent, ça m'a déjà fait ça, le lendemain je me réveille et il y a mon côté un peu plus logique, analytique, parce que bah, moi je suis un peu un zinzin du cerveau et je pense tout le temps. Vous l'aurez peut-être remarqué. Il y a mon côté un peu sceptique qui revient, analytique, logique, cartésien, ce que vous voulez, et qui dit ouais, bon, enfin, je me suis réveillé dans la nuit, j'ai l'impression que c'était vrai, mais au final, bah, là, je suis dans le monde. Enfin, je me suis réveillé, je me suis rendu compte que pas trop. Mais j'ai compris que souvent, c'était un peu un mécanisme de défense en mode là, je veux pas trop le voir, ce truc. Donc, bref, et là, je vais à mon bureau, je commence à lire, et vraiment, c'est le premier truc qui pop dans le livre qui dit, donc, c'est une citation de Carl Jung, qui dit, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie. Et vous appellerez cela le destin. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu mystique, Mais plus j'avance dans ma vie, plus je cherche, j'essaye de prendre conscience des trucs et tout, et plus je me rends compte que notre manière de fonctionner est dirigée par des processus inconscients qu'on a un petit peu de mal à comprendre. Et c'est intéressant. J'ai hâte d'avancer sur ça, d'essayer d'en comprendre les applications et de faire peut-être ce travail un peu plus en profondeur. Voilà. C'est vraiment la citation, quand je l'ai entendue, ça m'a un peu retourné. J'étais en mode putain. En fait, là, ce que j'ai écrit sur mon tel et ce dont j'ai rêvé, je pense que c'est pas de la merde, en fait. Je pense que vraiment, je veux pas l'avouer, mais ouais, il avait raison, le petit rêve, là. Bref. Écoutez vos rêves, ça peut être cool et ça peut servir, même si je suis le premier à galérer et à souvent à me dire non mais c'est de la merde, il n'y a aucun sens, ça sert à rien, bref. Notamment parce que ma mère, elle est psychanalyste, donc bah c'est un peu son taf d'étudier les rêves, et souvent elle me dit ouais t'as rêvé de quoi et tout, et moi ça me saoule grave. Chaque fois je lui dis ouais j'ai rêvé de rien, parce que je vais lui dire un rêve, elle va me partager son interprétation et moi ça va pas trop m'intéresser, etc. Mais souvent c'est les choses un petit peu que tu repousses qui t'attirent pas, vers lesquelles tu dois aller et vers lesquelles tu vas vraiment apprendre des choses. Donc voilà. Voilà, pour la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. On aura fait 51 minutes aujourd'hui. On aurait été un petit peu plus court, malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Parce que je ne suis pas dans la loi de Goodhart et je ne suis pas drivé par un objectif qui est une mesure et donc qui cesse d'être un bon objectif. C'est pas parce que je fais pas 1 heure que c'est pas un bon podcast. Ça n'a absolument aucune différence. Voilà les amis, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de faire la petite story pour qu'on échange, pour qu'on discute de votre situation, ou je sais pas, de la mienne, de ce que vous voulez. C'est vraiment un call qui est vraiment improvisé, sur lesquels on peut faire pas mal de choses. Voilà, merci pour votre écoute. C'était Dali. À bientôt. À la semaine prochaine.